L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est le nouveau nom de Radio Évasion. C'est toujours à midi en direct et en rediffusion à 18h. Notre invitée, vous l'avez sans doute déjà croisée sur notre antenne ou au cours des conférences qu'elle distille de ci, de là. Sa spécialité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a même créé en 2019 Egalus, un cabinet de conseil, formation, conférences sur ce sujet. Elle aime aussi se pencher sur des mots, leur version féminine. Ainsi a-t-elle rénové le mot impostrice, féminin d'imposteur, en écrivant un livre sur le syndrome de l'impostrice. L'émission est en archive sur notre site internet. Et le livre, dans les bonnes librairies, a pour titre « Les légitimes ». Aujourd'hui, Marine Bruno nous propose d'aborder un autre mot, féminin de fraternité peut-être, la sororité. Bonjour.
Bonjour.
Alors sororité, c'est un mot qu'on entend maintenant hein, de plus en plus souvent. Est-ce que c'est vraiment un mot nouveau ?
En réalité, pas du tout. Hein. C'est un
comme impostrice, en fait.
Exactement. Mais comme souvent avec les mots soit au féminin, soit qui concernent purement le féminin, ils ont subi divers moments, diverses phases d'invisibilisation, hein, voilà, notamment grâce à nos amis que je salue, puisqu'ils savent que je les adore, de l'Académie française, qui nous aide beaucoup depuis 1634 à invisibiliser les femmes et les mots qui les concernent. Donc en fait, sororité, c'est un terme qui existe depuis des centaines d'années et qui est régulièrement remis au goût du jour, il faut bien le dire, par l'engagement de féministes qui créent des espaces de sororité. Donc tout à l'heure, on disait, est-ce que ce serait une forme de fraternité, si on doit le définir ? Moi, j'aime pas trop définir le féminin en partant du masculin, parce qu'en fait, ça vient dire à chaque fois, ou ça vient induire l'idée que la norme, c'est le masculin, et que le féminin, ce serait en gros le masculin avec un truc en plus ou un truc en moins, et que donc le masculin resterait la forme neutre qui concerne tout le monde. Donc pour moi, la sororité n'est pas une fraternité entre femmes, c'est une solidarité entre femmes. D'ailleurs, le mot, tu l'as employé. Solidarité entre femmes, vraiment, voilà, qui crée quelque chose de l'ordre d'une forme de sœur, sans être sur un mode évidemment totalement idéal ou autre. Hein, la sororité, comme la fraternité, comme toute forme de solidarité, ont leurs limites, mais on va en parler, j'imagine.
Et quand on dit sœur, c'est bien sûr au sens symbolique et non pas biologique.
Enfin,
voilà,
tout à fait,
c'est,
bien
même
sûr.
Si ça a dû exister aussi dans ce sens-là. Hein.
Oui.
Alors, solidarité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire plus profondément, cette sororité ? Comment ça peut se traduire ?
À mon sens, déjà, il faut dire que dans notre société, ça ne va pas de soi. Et c'est un premier élément. Je reviens toujours aux aspects d'éducation et aux aspects sociétaux. La première réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tant que fille et en tant que future femme, nous ne sommes pas construites pour être à l'aise avec la notion de sororité. Donc, pour une fois, entre guillemets, on ne va pas taper sur les hommes, personne n'aura besoin de dire « not all men ». Entre femmes, nous savons très bien ne pas être sorores, nous mettre nous-mêmes dans une forme comme ça de défi, de challenge et de concurrence. Donc la sororité, encore aujourd'hui, c'est d'abord une démarche active. C'est même un engagement que l'on doit prendre de façon aussi consciente que possible envers globalement les autres femmes et notamment certaines autres femmes, notamment celles envers lesquelles ça ne nous semblerait pas naturel à la base. Il y a un aspect déjà générationnel. Aujourd'hui, on est beaucoup dans cette réflexion sur « Ah, les jeunes sont comme ceci, les vieilles, entre guillemets, sont comme cela », sachant qu'en tant que femme, on nous voit vieilles beaucoup plus tôt que ce qu'on l'est réellement.
Mais on a même une émission consacrée à ça, voilà. Qui s'appelle « Pourquoi pas vieille ?»
Et ben, voilà, bon, typiquement, c'est un sujet qui est évoqué régulièrement chez vous. Donc, il y a cette question-là d'avoir un premier engagement qui est un engagement actif, c'est-à-dire ne pas considérer que ça va de soi. Pour moi, là, ce que j'appelle la présomption de sororité n'existe pas, à partir du principe que quand nous sommes des femmes entre elles, forcément ça va bien se passer. Mm-hmm. Non, en tant que femmes, nous avons été élevées dans une société sexiste qui nous conduit à pouvoir l'être aussi entre nous. D'ailleurs, si on a parmi nos auditrices des femmes qui ont déjà travaillé uniquement avec d'autres femmes, nous voyons bien que ce sont des espaces qui ne sont pas du tout exempts ni de sexisme ni de violence. Mm-hmm. Donc c'est pas un truc purement masculin. Donc pour moi, la sororité, d'abord, c'est un engagement qu'on doit prendre, un engagement conscient. Et c'est aussi un travail de tous les instants, parce qu'à tout instant, on peut avoir nos vieux démons, si on peut dire ça comme ça, patriarcaux, qui peuvent revenir et faire qu'on va être beaucoup dans le jugement, spécifiquement parce qu'à côté de nous, on a une femme.
Et quels sont les milieux qui réemploient ce terme depuis je ne sais pas combien d'années d'ailleurs je sais pas, 5 ans peut-être, non ?
Les milieux féministes engagés, globalement, l'utilisent beaucoup. Après, malheureusement, comme souvent, ce terme, il est beaucoup dévoyé dans des espaces très marketing. Aujourd'hui, si on cherche ce hashtag-là sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, j'ai fait le test ce matin avant d'arriver chez vous, on trouve beaucoup de choses qui sont très marketing, pour vendre des produits, pour montrer des choses, etc. Donc ce terme, comme tous les autres, il peut très facilement être dévoyé, il est en train de l'être. D'où l'intérêt d'en parler sur une antenne comme la vôtre, par exemple, pour rappeler ce que c'est et rappeler que c'est un engagement avant tout et pas quelque chose dans une vision capitaliste pour, comme d'habitude, vendre quelque chose. Alors là, c'est vrai que ça fait 5-6 ans qu'on l'emploie de nouveau. Avant ça, quand on lit des écrits féministes de la fin des années 80, on le trouve aussi beaucoup. Pareil dans les années 60 et 70. On a aussi, dans les années 70 aux États-Unis, tout un courant qu'on appelle d'utopie féministe, dans lequel des femmes créent des espaces de sororité. Elles ont racheté en Oregon des hectares et des hectares de terre. Et elles y ont créé des espaces sans hommes, donc en sororité absolue. Donc ce terme, finalement, on le retrouve partout. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, il faut saisir la balle au bon. Il est très employé. Protégeons-le, entre guillemets. Là encore, pas dans une vision académie française, c'est-à-dire de mettre le mot dans le formol, mais en disant que la sororité, ça doit être avant tout un engagement, et évidemment pas un truc capitaliste et marketing.
Par exemple, dans l'actualité récente, où est-ce qu'elle aurait pu, où est-ce qu'elle s'est manifestée, cette sororité ? C'est pas facile à dire. C'est le seul bémol que j'aurais, c'est que c'est pas évident à prononcer en radio.
Oui, alors c'est vrai, mais c'est pareil pour impostrice et c'est pareil pour plein de mots comme ça. En fait, notre oreille, depuis qu'on est tout petit et toute petite, elle n'est pas habituée à employer certains mots qui nous semblent donc un peu barbares au début. Mais si je peux promettre une chose à vos auditeurs et auditrices, c'est qu'à partir du moment où on s'y habitue et où on le prononce régulièrement, il finit par exister dans notre bouche avec le même plaisir que n'importe quel autre mot un peu compliqué. Et puis au final, nous employons au quotidien des mots beaucoup plus compliqués que celui-là, notamment des médicaments génériques qui nous semblent imprononçables. On arrive à les dire, donc globalement,
bien sûr.
Ça va. Alors, dans l'actualité dernièrement, il y a deux personnes qui ont manqué de ce shoot de sororité dont elles auraient pu avoir besoin et qui ne sont pas pour autant des artistes qu'à titre personnel, j'apprécie. Je n'écoute pas chez moi, pour être très claire, Aya Nakamura ou Taylor Swift. J'ai d'ailleurs découvert Taylor Swift il y a 3 semaines et tout le monde connaît mon inculture crasse quand il s'agit de choses qui ne concernent pas des groupes qui passeraient au Hellfest, par exemple.
Alors, donc, est-ce qu'on précise qui est Taylor Swift ?
Globalement, voilà, ce sont deux chanteuses, une française et une américaine. Taylor Swift, c'est une chanteuse qui est la première de l'industrie musicale mondiale à être devenue milliardaire l'année dernière. Et Aya Nakamura, c'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde à l'heure actuelle et qui a aussi remporté, si on peut dire ça comme ça, la possibilité de chanter pour les prochains Jeux Olympiques.
Donc, ce sont des femmes puissantes, on pourrait le dire, mais peut-être pour cette raison, sûrement pour cette raison, très attaquée.
Très attaquée. Alors, très attaquée, comme à mon sens, on a le droit de critiquer tout le monde, il n'y a pas de question là-dessus, mais on voit bien que les femmes et les hommes ne sont pas critiquées de la même façon. Et quand les femmes sont critiquées, elles le sont aussi par leur père, P-A-I-R-E-S, ou mère, je ne sais pas qu'on pourrait dire ça là-dessus.
C'est vrai, il y a encore un mot à féminiser.
Et là-dessus, on pourrait saluer le travail de Tiffany D, qui est une artiste qui travaille à féminiser justement la langue et qui, elle, parlerait de mère, par exemple. Et c'est important en sororité de
mère, parler... M-A-I-R-E, alors à ne pas confondre avec la mère du village.
Peut-être. On voit qu'il y a un vrai travail d'inclusion des 52% de Français qui sont des Françaises en France dans notre langue. Mais si je reviens sur ces deux femmes donc puissantes, le terme a été dit, il est important. En fait, elles se sont fait taper dessus globalement de façon très sexiste par les hommes, mais aussi par les femmes. Et c'est là qu'on voit qu'on a un vrai travail de sororité à faire, qui est que finalement, si on est dans cette démarche de sororité, quand bien même on n'apprécie pas la musique de la personne, la première chose à se dire, c'est si je critique cette personne, est-ce que la critique que je vais faire serait la même si c'était une personne de l'autre sexe ? Globalement, est-ce que je dirais la même chose d'un mec ? Si je vois que je ne ferais pas le même genre de critique d'un homme, alors dans ce cas-là, je suis sexiste moi-même. Et de même d'ailleurs, si je vois que quand j'ai envie de critiquer le travail ou ce que fait ou ce qu'est une personne, un homme, si je vois que je ne dirais pas la même chose d'une femme, alors dans ce cas-là, je suis sexiste aussi. Sauf que, étrangement, le sexisme est beaucoup plus employé à l'encontre des femmes dans nos critiques qu'à l'encontre des hommes, y compris de la part des autres femmes. D'où le travail de sororité qu'on a à faire. On peut se dire qu'on déteste ce que raconte Aya Nakamura, qu'on comprend rien, qu'on trouve ça nul, etc. Et pourtant, reconnaître reconnaître que bah, ça n'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde et que ça peut-être peut nous conduire à éviter de dire qu'avant toute chose elle est vulgaire ou qu'avant toute chose je ne sais trop quoi. C'est ça le travail de sororité.
Disons que dans le cas d'Aya Nakamura, il y avait sans doute aussi du racisme qui se mêlait au sexisme.
Absolument. Et c'est là la différence majeure qu'on constate, notamment sur les réseaux, dans les propos que peuvent tenir des hommes, mais donc aussi des femmes, envers Taylor Swift et envers Aya Nakamura. C'est la dimension raciste concernant Aya Nakamura qui se fait jour très très rapidement d'ailleurs, et qu'on a même pu voir dans la classe politique, et pas seulement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-droite, et qui sont juste les fachos.
Oui, et d'ailleurs, c'est... Alors, est-ce que c'est un contre-courant, une contradiction ? La sororité serait empêchée par le racisme. Enfin, c'est ça. Il y aurait pas de. C'est pas parce que on peut ressentir de la sororité qu'on va pas être raciste, en fait.
Ah oui, absolument. Ouais. Quand on est à l'intersection de divers éléments de discrimination potentielle, comme le fait non seulement d'être une femme, mais en plus d'être une femme jeune et racisée, bah on voit que quand bien même on peut essayer de faire preuve de sororité, au final, on peut quand même être raciste. Ça me donne à penser autour d'un collectif d'extrême droite qui se dit féministe par ailleurs et qui s'appelle Némésis, qui défile actuellement dans les diverses manifs fascistes françaises et néo-nazies, etc. Alors elles se disent féministes.
Ouais, pourquoi ? C'est quoi leurs arguments ?
Quand bien leur phase, mais elles considèrent qu'on va pouvoir aider les femmes et les sauver si elles restent à la maison et qu'on est dans le travail famille-patrie de notre bon monsieur Pétain. Donc pour le coup, elles considèrent que c'est une forme de féminisme, que l'on doit donc peut-être reconnaître comme telle. En revanche, en termes de sororité, clairement, elles n'y sont pas, et spécifiquement, elles n'y sont pas concernant des femmes racisées.
Alors, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui bloque, en fait, dans cette pratique de la sororité ? Pourquoi est-ce que toutes les femmes ne sont pas solidaires entre elles ?
Je crois que c'est vraiment quelque chose de sociétal et d'éducatif. Je reviens toujours sur ces aspects-là, mais avant d'être un adulte ou une adulte constituée, nous sommes des enfants, nous évoluons dans un bain patriarcal au quotidien entre les médias, etc., etc., et nos parents qui ne sont pas toujours détricotés sur la question des stéréotypes de sexe et de genre. Et de fait, on va donc se construire en intériorisant ces stéréotypes-là et en intériorisant le fait qu'il y a une hiérarchie entre les filles et les garçons, qu'on va connaître dès l'école, finalement, dès l'école primaire. On sait aujourd'hui que les enfants, à l'âge de 11 ans, donc à l'entrée en 6e, ils ont intériorisé le pack complet de toutes les discriminations, de tous les stéréotypes. Donc cela aussi. Et donc finalement, en tant que petite fille, on va beaucoup être construite dans la comparaison avec les autres. Laquelle est la plus jolie, laquelle est la plus douce, laquelle est la plus docile, etc., etc., la plus mignonne. Là où les garçons vont pouvoir, globalement, là encore, disposer de beaucoup plus d'espace pour découvrir qui ils sont et pour créer leur propre fonctionnement.
Enfin, donc, ça ne les empêche pas d'être dans la compétition entre eux quand même.
Mais... Oui, mais c'est une compétition qui est très différente. Ça va être beaucoup sur les questions de performance, mais moins sur les questions physiques, même si c'est encore un petit peu en train de bouger négativement pour les garçons, malheureusement les pauvres. Mais du côté des filles, c'est depuis très longtemps que c'est comme ça. Et que de fait, si vous mettez des femmes, encore aujourd'hui, ensemble dans une même pièce, la première chose qu'elles vont faire, c'est se comparer les unes aux autres, évidemment sur un mode négatif, soit envers elles-mêmes, soit envers les autres. Donc ce travail de sororité que je fais notamment en formation, par exemple, quand je travaille uniquement avec des femmes, c'est de dire, dans cet espace là, pendant les 3 heures que nous allons passer ensemble, à aucun moment vous ne devrez vous comparer aux autres, à aucun moment vous ne devrez tenir de propos négatifs vous concernant vous-même. Et en fait, là, je pose une seule
obligation.
Ah oui,
parce que quand on tient des propos négatifs, c'est forcément parce qu'on se compare ? Non, quand même.
Bah, globalement, si. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on se dit toujours qu'une telle ferait mieux ou qu'une telle ferait moins bien. Et on est beaucoup aussi dans une comparaison, parce que c'est comme ça que la société nous regarde, qui concerne nos attraits physiques. Et finalement, quand vous mettez deux femmes dans une pièce, la première chose qu'elles vont regarder, c'est la taille des seins et des fesses de l'autre et la tenue. Alors que si on se positionne en situation de sororité, à la fin de la rencontre avec cette femme, on peut tout à fait ne même pas se rappeler exactement comment est son corps et quelle tenue elle portait, parce que c'est pas ça qui compte, parce qu'on est sorti de ça. Mais comme je le disais au début, ça ne va vraiment pas de soi, c'est un vrai engagement. Et ça commence avec des choses toutes petites dans le quotidien, d'oser faire un compliment à une autre femme, par exemple. On voit que les femmes osent très peu se dire les choses, des choses positives. Donc la question du compliment, la question de la réflexion, de l'échange sincère, la question de ne pas se mettre en concurrence aussi entre ce qu'elle a de plus, ce qu'elle a de moins. Donc casser cette hiérarchie dans laquelle nous sommes positionnés depuis que nous sommes enfants, de façon très acquise, là où les tout-petits entre eux ne sont pas dans la comparaison si on ne leur transmet pas ça.
Alors, il y a quand même des cas où ça fonctionne bien. De non-mixité, donc de femmes entre elles. Par exemple, bon, on a fait des sujets avec les agricultrices là, qui apprenaient ensemble à réparer un tracteur ou à manier la tronçonneuse, donc qui disaient que c'était bien parce que là, il n'y avait pas d'histoire de comparaison avec les hommes. Donc finalement, elles n'avaient pas l'air de se comparer entre elles sur ce domaine-là. Parce que c'est un domaine nouveau peut-être, non ? C'est ça ?
Alors après, ce n'est pas du tout un domaine nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un domaine dont on parle. Mmh. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour le coup, je crois vraiment qu'elles elles peuvent dire ça. Parce que dès le début, c'est positionné comme tel, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'elles vont être entre femmes. Mmh. Et donc, elles ne vont à aucun moment questionner le fait qu'il y ait des hommes ou pas, c'est posé comme tel. Donc là, finalement, ça va créer une sororité un peu par principe, où on va se dire qu'on est sur un même pied d'égalité. Mais pour moi, il y a une forme de piège dans ça, c'est que là, on donne un exemple sur un espace qui est traditionnellement plutôt reconnu comme étant masculin, et donc l'élément avec lequel on pourrait s'hiérarchiser, ce serait les hommes. Et donc, on se retrouve entre femmes en se disant, de toute façon, bah, on est toutes que des femmes, entre guillemets, donc ça va bien se passer. Mais dans d'autres espaces plus traditionnellement féminins, je pense au travail social par exemple, ou différents métiers de l'éthique du care, bah, cette question de sororité-là, elle peut affleurer dans des moments compliqués, de tension, etc., etc. Mais dans le quotidien, elle n'est pas forcément toujours présente et c'est important de le rappeler.
Parce qu'elle peut nous apporter. Et là, j'entendais un reportage aussi, c'était intéressant, sur des boîtes de nuit en fait qui réservent des soirées aux femmes. Et enfin, c'est même un concept, hein, je crois. Mm-hmm. Et là, les filles se disaient, enfin celles qui s'exprimaient en tout cas, oui, c'est quand même très intéressant de pas faire tellement attention à comment on est habillé. Donc, il n'y a pas toujours cette comparaison entre femmes.
Non, clairement, mais là aussi, on est encore dans quelque chose où on va devoir exclure l'élément, entre guillemets, attention, ne nous emballons pas, de danger, et donc de nécessaire séduction potentielle. Hein. Globalement, vous n'allez pas en boîte de nuit pour tester vos nouvelles façons de danser que vous avez apprises sur YouTube, hein. Vous y allez dans une recherche de séduction. Donc si vous retirez l'élément face auquel on va vouloir séduire, bah vous faites tomber cette forme de hiérarchie par principe. Donc là aussi, c'est des choses qui sont entre guillemets un petit peu biaisées. Le meilleur espace de sororité, c'est à mon sens dans le quotidien, le moment où on va faire un barbecue avec les amis dans quelque chose de très mixte, où on aura quasiment autant de femmes que d'hommes par exemple, et notamment beaucoup de couples hétérosexuels, et où on va voir comment, si un homme tient des propos problématiques envers sa compagne, comment les autres femmes se positionnent dans ce moment-là. C'est le meilleur test de sororité que l'on peut envisager dans notre quotidien, c'est-à-dire où là, il y a des hommes. Et donc où il y a, si on est des personnes hétérosexuelles, où il y a un enjeu par principe de séduction, parce qu'il y a au moins un homme dans une pièce.
Mmh. Et puis des histoires de clans, familiales aussi.
Bien sûr, il y a divers enjeux qui s'ajoutent les uns aux autres dans ce moment-là. Après, moi, ce que je voudrais vraiment dire sur cet élément-là, c'est que la sororité, ça peut nous sembler être un concept, quelque chose de très large ou quelque chose qui doit être réservé à un espace engagé, où on dirait c'est un espace en non-mixité, par exemple, on doit être là uniquement entre femmes, et donc qui fait que certains ont très très peur et pensent qu'on sort les chaudrons de sorcières et les grenouilles, hein, ça, on l'entend beaucoup encore aujourd'hui. Mais de fait, je crois que la sororité, c'est quelque chose qui peut être très simple à manier au quotidien, juste à un moment donné d'avoir un échange entre femmes en se disant qu'on se parle de personne à personne. Mais c'est, à mon sens, vraiment encore aujourd'hui une démarche engagée. J'espère voir d'ici à la fin de mon propre parcours de vie la sororité comme quelque chose qui aille beaucoup plus de soi, comme c'est le cas de la fraternité de façon globale aujourd'hui. C'est le seul élément sur lequel je comparais sororité et fraternité. C'est que j'aimerais bien qu'un jour la sororité soit quelque chose d'aussi pseudo-naturel, on va dire ça comme ça, que la fraternité.
Mais il y a eu des grands cas dans l'histoire de sororité qui ont fonctionné d'ailleurs.
Oui, bah, si on parle par exemple de la révolte des Pensardines, l'année prochaine on va fêter les 100 ans de l'élection comme élue communale de Joséphine Pencalette par exemple. Bon, bah, là c'est quand même un moment en effet de sororité très important, mais là aussi quand on regarde l'histoire, ça n'allait pas de soi. C'est un moment donné, c'est très circonstanciel, conjoncturel, il va se passer quelque chose. Est-ce que dans le reste l'espace du temps, il y avait vraiment cette sororité absolue, l'histoire nous montre que non, dans les écrits dont on dispose, il y avait quand même une mise en concurrence des femmes entre elles, alors notamment par leurs exploiteurs, on va dire ça comme ça, professionnels, mais pas seulement, c'est aussi entre elles.
Quand même la loi avortement en France, avec le fameux manifeste, c'est un exemple de sororité, je pense. Enfin, ces femmes qui écrivent qu'elles se sont fait avorter, que...
Oui. Voilà. Alors oui, c'est vrai. Maintenant, dans cette époque-là, est-ce que... en fait, moi, j'essaye toujours de voir les choses de façon nuancée, c'est-à-dire de voir évidemment le verre à moitié plein en disant il y a eu plein d'exemples. Et aujourd'hui, au quotidien, il y a plein d'exemples de sororité, bien sûr, et c'est génial de les voir. Mais aussi de se dire que dans ces moments-là, on a un manifeste des 343. Y avait-il seulement 343 femmes très connues qui avaient subi ou pratiqué un avortement à cette époque-là? Non. Nombre d'entre elles ont dit non pour diverses raisons, mais aussi, pour certaines, dans une dimension anti-sororité. C'est pour ça que, pour moi, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, ça reste un engagement fort à prendre de façon consciente, en se disant, à partir de maintenant, je fais très attention à cet élément-là et je ne pratique pas, par exemple, l'aboiement avec les loups, c'est-à-dire quand tout le monde se jette sur une femme et parce qu'on n'est pas d'accord avec elle et autres, je fais comme les autres, sans me poser de questions sur la portée parfois sexiste de mes mots envers elle. Et je me dis toujours, est-ce que je ferais la même critique ou de la même façon si c'était un homme en face de moi?
Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas s'interdire de faire des critiques si on n'est fondamentalement pas d'accord avec ce que dit une femme, parce que c'est une femme. On est d'accord.
Hein, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment pas d'être dans un monde de bisounours en disant toutes les femmes sont géniales et on devrait le reconnaître et nous sommes toutes des héroïnes, etc. J'en ai déjà parlé au micro de Transistor précédemment. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de femme héroïne. Ça ne fait pas du tout sens pour moi, parce que là aussi, ça crée une hiérarchie entre les femmes. Par contre, si on part du principe que la critique, elle peut être constructive et qu'elle est pertinente si elle est dénuée de stéréotypes et d'aspects sexistes. En gros, est-ce que je critiquerais de la même façon cette personne si c'était un homme ou si c'était une femme? Pour moi, dans ce moment-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste et on ne vient pas rajouter à une réflexion, une critique qui est tout à fait légitime, on ne vient pas rajouter un élément qui est illégitime puisqu'il est discriminatoire.
Alors un peu de méthodologique, puisqu'il nous reste quelques minutes, comment est-ce qu'on peut promouvoir, à l'inverse, développer la sororité?
Je crois que ça se fait dans le quotidien, avec les femmes de notre classe d'âge, qui sont, parce que pour moi c'est un peu différent avec les petites filles, avec les adolescentes et les très jeunes femmes adultes, où là il y a des choses un peu spécifiques, mais avec les autres femmes qui doivent pouvoir continuer à exister aussi dans l'espace des autres classes d'âge, c'est simplement en étant dans quelque chose où on va créer un cercle vertueux dans notre quotidien, dans nos échanges, dans notre façon d'échanger, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, la capacité à faire des compliments, la capacité à être dans une critique que l'on va vouloir être, non pas objective, parce qu'on ne peut jamais l'être totalement, mais dénuée de stéréotypes, d'aspects discriminatoires. Après, avec les très jeunes filles, je crois que c'est se positionner et assumer ça d'ailleurs, se positionner comme rôle modèle, c'est-à-dire comme passeuse de transmission envers elles, de valeurs qui vont peut-être leur sembler un peu contre-productives ou contre-intuitives par rapport à leur éducation très genrée, très sexiste qu'elles ont pu avoir, mais c'est de leur démontrer qu'au quotidien, le fait de se mettre en concurrence avec d'autres femmes, que ce soit sur l'aspect du physique ou autre, ça n'est pas pertinent, et surtout sur le long terme, ça n'est pas un pari gagnant. Donc en gros, c'est de venir faire du détricotage, finalement, des stéréotypes. Mais ça veut dire que nous-mêmes, il faut déjà qu'on soit à l'aise avec ça et avec la façon dont nous-mêmes, dans notre quotidien en tant que femmes, on peut agir cette contre-sororité, parfois, dans la façon dont on va parler des autres femmes devant des petites filles ou des jeunes filles.
Et les réseaux sociaux numériques, puisqu'ils sont partout et omniprésents, est-ce que c'est plutôt un outil d'aide ou est-ce que c'est plutôt un frein? Enfin, moi, je pense il y a des mouvements, par exemple Body Positive, où il s'agit de valoriser son corps quel qu'il soit. Hein. Donc là, on va dire que c'est positif dans la sororité, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Alors, la comparaison, on passe son temps à se comparer.
Oui, alors oui, il y a forcément cet aspect-là dans cette société de l'image, etc. D'ailleurs, rien que dans notre échange là ce matin, des personnes pourraient tout à fait se comparer avec nous et avec notre énorme charisme de radio, assumons-le. Absolument. Enfin, surtout le tien, parce que moi je suis moins habituée à l'exercice.
Ça, je ne sais pas.
Bon, on en reparlera hors antenne alors. Mais de fait, pour moi, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est en effet cet apport positif. Maintenant, est-ce que ça fait réellement le poids face au cyberharcèlement que des femmes qui on va dire, se mettent en avant, je n'aime pas ce terme, mais plutôt prennent leur place dans l'espace Internet, on va dire ça comme ça, vont subir. Je ne sais pas si vraiment on est sur un point d'équilibre, d'autant que le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France nous démontre que chez les jeunes, on a une forme de polarisation du sexisme, c'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas été élevés dans une systémie familiale qui va leur transmettre beaucoup, beaucoup de stéréotypes de sexe, de genre, et d'ailleurs les autres points de discrimination potentiels, sont des jeunes qui vont globalement être plutôt, on va utiliser ce terme politique, progressistes et plutôt féministes. Et pour les autres, il y a une polarisation vraiment à l'inverse, avec tous les incels, les masculinistes à l'heure actuelle, les propos très décomplexés sexistes que peuvent avoir, alors beaucoup de garçons, mais aussi des filles qui vont intérioriser ça. Et quand j'interviens en lycée, par exemple, et que je parle de la sororité, on est quand même avec des jeunes qui sont hyper connectés, qui globalement ont accès à tous ces éléments-là sur les réseaux sociaux. Et ce terme sororité, pour beaucoup d'entre elles et d'entre eux, c'est un terme inconnu, tout aussi inconnu que pour des femmes et des hommes de 50 ans et plus. Mmh.
Eh bien, il y a encore du travail, alors Marine. Oui. Merci beaucoup.
Et puis, ben, merci beaucoup.
Donc, j'ajoute qu'on retrouvera Marine Bruno à la rentrée. Alors là, ce sera pour un autre sujet, une autre émission d'ailleurs, qui proposera d'écouter des élus locales et des élus locaux parler de leur engagement citoyen. C'est une émission qui sera proposée par Véronique Leroux. Et puis vous, Marine, vous reviendrez sans doute à l'occasion de la sortie de votre prochain livre.
Avec plaisir. Merci.